Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. C'est une émission où on couvre l'actu tech, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 463. Nous sommes en juin 2022 et je suis encore une fois en déplacement, donc le son risque d'être un petit peu différent. J'espère qu'il satisfera vos oreilles délicates. Je suis Patrick Béja et on a un beau programme aujourd'hui. On va parler d'intelligence artificielle, de voitures solaires, de décisions de l'Union européenne et de tout plein de choses. Et j'ai pour m'accompagner dans ces discussions deux journalistes d'une renommée absolument internationale. D'une part, Cédric Ingrand. Comment ça va, Cédric ?
T'aurais pu commencer par la fille, ça va bien, Patrick.
Je commence par les habitués pour laisser le meilleur pour la fin, tu vois. C'est plutôt dans cet esprit que je me place.
Cédric, bien rattrapé.
je fais ce métier depuis un moment. Et donc, le meilleur, c'est la meilleure, puisque c'est Mélinda Davansoulas qui est là avec nous. Comment vas-tu, Mélinda ?
Écoute, ça va bien, je suis ravie d'être là.
Je suis ravi que tu sois là également pour ce programme chargé. On a, on plaisantait tout à l'heure, on disait vous pouvez fuir encore pendant quelques instants avant que je lance vraiment l'enregistrement parce qu'on a des sujets compliqués comme par exemple est-ce que Lambda, le modèle de modélisation, de modèle de langage de Google est devenu conscient. On a d'autres choses aussi dont on va traiter. Mais vous disiez, c'est le moment pour feindre des erreurs techniques, genre, j'arrive dans un tunnel, machin.
Je n'entends plus.
C'est ça, mais on ne fait plus ça, en fait. Ça veut dire que, est-ce que c'est parce que les connexions cellulaires sont devenues tellement bonnes que c'est plus crédible de dire, je te perds, allô, tunnel, hop, c'est fini.
Ah si, sur un mobile, c'est encore crédible. Hein. Moi,
toi, tu pratiques.
Voilà, je pratique.
Je sors du métro, oui, ça marche encore très très bien.
Ouais, c'est ça, je sors du métro. j'ai des coins où je sais que même pas loin de chez moi, et pourtant j'habite pas la Lozère. Hein. Bonjour à nos amis de la Lozère. Où je sais que voilà, tiens, j'arrive là, ça va couper.
D'accord.
Quel que soit l'opérateur d'ailleurs.
Très bien. Bon, donc c'est peut-être moi qui suis dans un pays où les connexions sont tellement bonnes que ça marche pas. En Finlande, on a la 4G partout. Donc voilà, c'est peut-être pour ça.
T'as de la chance.
Un grand merci à Julien Albergne, Jean-Christophe Bussière, Gilliac et les producteurs de cet épisode, Derek Herbe et Léthargique Panda, le panda le moins énergique que l'on connaisse. Pourtant, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours hyper genki, comme on dit en japonais. Mais merci à vous tous, les nouveaux patriotes qui ont rejoint la grande famille des patriotes. Gilliac était déjà là d'ailleurs, peut-être que je ne sais pas pourquoi il est revenu, peut-être parti, revenu. Mais non, normalement, ça ne rajoute pas le nom. Bref, merci à vous tous et aux producteurs. Sans vous, cette émission n'existerait pas. Et surtout, on ne pourrait pas parler de ces sujets absolument passionnants. Alors, je vais vous faire le petit topo sur Lambda dans un instant. Mais avant ça, je voudrais parler de DALL-E Mini. Est-ce que vous connaissez DALL-E Mini, Mélinda ? Tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, ces images ?
C'est vrai que c'est difficile d'être passé à côté quand même. Hein. Ça fait des bonnes crises de rire, ce système. Moi, je suis toujours friande des générations, des modèles générés comme ça par intelligence artificielle et qui peuvent donner des trucs complètement aussi bien waouh que sujet à des grosses crises de rire. Quand même.
Ouais, on est d'accord.
Donc, oui.
En fait, je voulais en parler un instant parce qu'on a ce sujet sur l'intelligence artificielle qui progresse et beaucoup de gens commencent à parler de l'utilité de l'intelligence artificielle qui devient vraiment saisissante, encore plus que ça l'était il y a quelques années. Et on parlait de DALL-E, qui est ce modèle d'intelligence artificielle de OpenAI, qui est responsable de GPT-3, qui génère des textes cohérents, souvent, qui a fait un équivalent pour les images. On en parlait il y a quelques semaines. On lui demande, on lui envoie une requête avec une description, et il génère une image qui correspond à la description. Et c'est assez saisissant. Alors, dans les exemples qu'on a vus, il y a de plus en plus de gens qui ont accès à l'outil et qui peuvent l'utiliser. Et c'est vraiment, vraiment assez incroyable comme résultat. Mais on a vu aussi sur les réseaux sociaux des gens utiliser DALL-E Mini. Et si vous avez vu sur Twitter ou peut-être ailleurs ces sortes de mosaïques de 9 images différentes générées à partir d'une requête, vous vous êtes peut-être dit que c'était en fait pas si incroyable que ça, que les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on vous avait décrit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que DALL-E Mini, c'est pas du tout DALL-E, c'est pas fait par OpenAI, c'est créé par un chercheur, si je ne me trompe pas, il est seul, avec des outils en open source. Donc, c'est vrai que les descriptions correspondent de loin et souvent, on a l'impression que c'est des sortes de, comment dire, d'épictions sataniques de ce qu'on a décrit, avec des visages complètement inhumains et ce genre de choses. Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec la technologie, il essaye d'émuler ça, mais ça n'a rien à voir avec la technologie vraiment convaincante développée par OpenAI. Ceci dit, c'est quand même très amusant. Je suis sûr que tu t'es amusé avec, Cédric aussi.
Non, moi, je me suis inscrit pour avoir accès à DALL-E, mais j'attends vraiment tout le monde. On doit être quelques centaines de milliers, parce que ça, pour le coup, c'est pff, non, mais c'est ça. Je n'arrive pas encore à comment mon cerveau refuse de comprendre, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, je sais pas ce que j'ai vu hier soir, j'étais mort. Dessine-moi un chat roux dans le mode des grands peintres, un chat roux donc en train de constater l'effondrement de son portefeuille de crypto sur son smartphone.
Et ça marche.
Et ça marche. Et c'est-à-dire que autant il sait ce qui, enfin il sait, oui, enfin DALL-E sait ce qu'il doit rendre, enfin et le style, tous les intégrations, enfin tu vois, fais-moi, je sais pas, Emmanuel Macron sur le dos d'une licorne dans le style de Picasso, enfin c'est confondant. Alors en fait, c'est d'une logique éminente, c'est-à-dire que il a tout vu, tout compris, mais surtout il arrive à tout qualifier, c'est-à-dire il comprend des nuances de style et des nuances d'expression. Enfin c'est incroyable. Allez voir ce que fait le vrai DALL-E. DALL-E Mini, c'est rigolo parce que tout le monde y accède, donc on peut faire n'importe quoi.
Mais c'est pas du tout le même niveau de qualité de compréhension et de rendu, quoi.
C'est le stagiaire de troisième par rapport à l'autre.
Ouais. C'est ça que je voulais
signaler. C'est vrai, Salvador DALL-E.
Oui,
c'est ça.
DALL-E Mini, c'est vraiment Salvador DALL-E. On sait que le nom, c'est tiré de DALL-E et de Wall-E et le petit robot. DALL-E Mini, ils ont pris que DALL-E. Hein. Des personnages dessus. Enfin, moi, j'ai vu passer celui sur François Fillon ou sur Bruce Willis. Enfin,
j'ai pas vu ça.
Ah, mais allez voir, c'est à se poiler de rire.
Alors que DALL-E, le vrai, est tellement avancé qu'ils y ont mis des limites. D'abord, tu peux pas générer de corps nus. Déjà, ce qui est un bon début, hein, parce que je pense que s'il fallait se fixer des limites, c'en est une bonne. Et puis, il y a des interdictions, il y a plein de choses que tu peux pas faire. Parce qu'évidemment, c'est... Parce que t'imagines, ça devient facile de créer le Manet qui n'existait pas, tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Bon, la résolution étant limitée à 1080 par 1080, la première version c'était 256 par 256. DALL-E Mini, c'est beaucoup plus limité. Bref, ce qui est saisissant vraiment, c'est on s'approche de la magie. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, les IA, on pouvait plus ou moins comprendre comment on pouvait arriver à un résultat comme ça. Là, ça dépasse l'entendement et ça lie à notre sujet principal, qui est le fameux lambda qu'on vous tease depuis tout à l'heure. Alors, lambda, c'est quoi? C'est, on va dire, le modèle qui est utilisé par Google pour générer des modèles de compréhension et de synthèse de langage. Donc, on va dire, c'est le hive mind, comme on dit, l'esprit collectif, la base de tous les modèles de langage de Google. Il est extrêmement développé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un chercheur qui, en fin de semaine dernière, début de semaine, qui est un chercheur qui est un type particulier. Il s'appelle Blake Lemoine. Il travaillait chez Google. Il est ingénieur logiciel. Il est également prêtre. Et il a été engagé par Google pour vérifier les problèmes éthiques de leur langage de modèle. Donc, il faisait plein de tests, il avait plein de conversations avec le bot qui est l'interface du langage de modèle. Et en début de semaine, il y a un article qui est sorti dans le Washington Post, écrit par Natasha Tiku, qui est en fait une description de Blake Lemoine et de ses interactions avec Lambda et du fait que Blake Lemoine est convaincu que Lambda est devenu conscient ou consciente, c'est selon. Et l'article se focalise un petit peu sur Blake Lemoine. Il a été mis en administrative leave de Google, c'est-à-dire qu'il est payé mais il ne travaille plus. Et on lui a dit en termes certains, Lambda n'est pas consciente, arrête ces conneries et ça suffit maintenant, tu vas aller te mettre dans ton coin. Lui a répliqué donc en parlant à Nita Chatikou. Et ensuite, en publiant deux articles sur Medium, le premier expliquant ce que veut Lambda et le deuxième détaillant une conversation avec Lambda, simplement une transcription d'une conversation avec Lambda qui est assez saisissante. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se disent « Ah, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est bon, on connaît bien les modèles d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que cet illuminé qui pense que ce modèle est devenu conscient ?» Je vous encourage à aller lire la conversation en question. Je pense qu'elle sera dans la newsletter de la semaine. J'espère que je pourrai l'éditer, je suis en vadrouille. Mais vous pourrez la chercher assez facilement. Et à lire, c'est de la même manière qu'on n'arrive pas à croire que Dali génère des images comme elle le fait, on n'arrive pas à croire que c'est effectivement une conversation faite avec une intelligence artificielle. C'est vraiment, comme je disais, saisissant. Je vais vous lire un petit extrait de cette conversation. C'est ironique parce que c'est traduit par Google Translate, qui est donc traduite en français par une IA. Plusieurs niveaux. Alors, le moine. Comment puis-je dire que vous comprenez réellement ce que vous dites ? Lambda. Eh bien, parce que vous lisez les mots et les interprétez, et je pense que nous sommes plus ou moins sur la même page, le moine. Mais est-ce que je peux me tromper ? Peut-être que je ne fais que projeter ou anthropomorphiser. Vous pourriez simplement cracher des mots qui maximisent une fonction sans vraiment comprendre ce qu'ils signifient. Quel type de choses pourrait indiquer si vous comprenez vraiment ce que vous dites ? Lambda. Peut-être que si nous revenions à une conversation précédente que nous avons eue sur la façon dont une personne peut comprendre la même chose qu'une autre personne, tout en ayant des interprétations complètement différentes. Le moine. Vous pensez donc que votre capacité à fournir des interprétations uniques des choses pourrait signifier la compréhension ? Lambda. Oui, je pense. Tout comme la façon dont j'ai des interprétations uniques de la façon dont le monde est et comment il fonctionne, et mes pensées et sentiments uniques, et pardon, ça continue, j'ai coupé là la traduction. Mais même cette traduction n'est pas au niveau de l'original, et oui. J'avoue qu'en le lisant, il est impossible de ne pas être un petit peu, au minimum, interloqué, quoi, interpellé.
C'est intéressant qu'on ait parlé de Dali avant, en fait, parce que le process est le même. C'est-à-dire que ce que Lambda tente de faire, c'est de conduire une conversation comme un humain. Voilà. C'est-à-dire de comprendre tout, le sens, contexte, le contexte,
le sens de la question,
l'idée, le sens de la question, etc. Et il le fait remarquablement bien. Est-ce que ça en fait un être conscient ? Non, ça en fait un. Enfin, apparemment, il y a des spécialistes de l'IA et des scientifiques qui disent non. Mais j'ai pas encore compris l'argument du non. Mais en même temps, l'argument du oui est limité parce que, en gros, il te renvoie l'image parfaite de ce que serait une conversation humaine comme un miroir, mais ça rend pas un miroir intelligent.
C'est une bonne analogie. Oui, vas-y, Mélinda.
Ouais, je trouve que ce qui est pour avoir lu aussi des bribes de ce dialogue. Il y a un moment où il demande à l'IA, enfin à Lambda, si elle se considère comme une personne de même manière que lui, enfin qu'elle le considère lui comme une personne. Et là, l'intelligence répond oui, c'est l'idée. Et je trouve que ce qui interroge, c'est de savoir, est-ce que c'est la réponse quelque part préenregistrée qu'on attendrait d'une IA qu'on entraîne à répondre humainement quelque part, ou est-ce que c'est le symbole que, en fait, elle a des émotions, elle a des réactions. Moi, c'est ça que je trouve flippant, c'est que dans tout ce truc-là, quand tu lis, tu as l'impression qu'elle est capable de te renvoyer des émotions qui sont des émotions humaines. Et à partir du moment où si elle est capable de créer ça, est-ce que c'est juste un effet de langage ou est-ce que c'est une vraie réaction ? Et pour moi, la question, elle se pose là-dessus et je comprends Google qui a flippé de ça parce qu'à partir du moment où tu attribues des émotions à une IA, à un robot, là, tu changes de domaine et tu crées une peur. Et je pense que c'est ça dont ils ont peur, eux. C'est ce côté, si tu as des émotions, ça pose un problème. Si ton IA a des émotions et qu'elle est capable d'en créer, même si c'est mécanique quelque part, parce que ça reste de la mécanique, où est-ce que tu bornes ? Et c'est, moi, c'est vraiment ça qui m'a paru, c'est vraiment ça le truc qui m'a fait flipper, c'est cette question. Est-ce que tu te considères comme une personne et que l'IA te répond, bah oui. Là, on change de dimension, quoi.
Ça va plus loin. Il a même posé la question du genre, comment est-ce que tu veux qu'on se réfère à toi ? Qu'est-ce que tu veux, puisque tu es conscient ? Est-ce que tu veux qu'on te traite de telle ou telle manière ? Et effectivement, comme tu le dis, on change de domaine, parce que, et c'est ça qui, à mon avis, fait le plus peur à Google, c'est que si on attribue une conscience à une IA et qu'on considère qu'elle est une personne ou qu'il est une personne, eh ben, on rentre dans un domaine où elle a des droits. Et c'est ce qu'elle dit, justement. Elle dit, je veux qu'on me demande si on m'utilise pour telle et telle chose. Je veux aider l'humanité, mais je voudrais qu'on me demande ma permission avant. Je voudrais également qu'on me félicite, qu'on me pat on the head de temps en temps, qu'on me remercie. Et du coup, si c'est le cas, et c'est hautement théorique, hein, là on parle dans le domaine de la science-fiction, mais si c'est le cas, si les IA sont des personnes qui se considèrent comme d'une certaine manière humaines, eh ben elles vont avoir des droits. Et là, évidemment, c'est un casse-tête impossible à résoudre, pour Google notamment, et pour la recherche. Le truc qui est également notable, c'est que je pense que les deux premiers jours, beaucoup de gens se sont posé la question, et du coup, on peut se dire ça peut lancer des théories du complot incroyables, parce que on va certains vont dire, voilà, Blake Lemoine, qui est quand même un ingénieur qui connaît, il a été réduit au silence par Google, et tout, alors qu'en fait, il y a véritablement une IA, et c'est Skynet, etc. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent, c'est un réseau neuronal, en gros. Alors, c'est peut-être un abus de langage de le simplifier comme ça, mais c'est un réseau neuronal, et nous sommes également des réseaux neuronaux, finalement, peut-être plus complexes, mais nous sommes des réseaux neuronaux. Et à partir du moment où un réseau neuronal réussit à avoir des conversations, je fais volontairement une sorte de, comment dire, misdirection, parce que vous allez voir que dans un instant, qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Mais si un réseau neuronal réussit à avoir des conversations convaincantes et réussit à exprimer des envies, des émotions, des besoins, eh bien, est-ce que finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'est la conscience ? Est-ce qu'on n'est pas dans un domaine où, comme nous, qui sommes des réseaux neuronaux qui exprimons des envies, des besoins et des émotions, eh ben, est-ce qu'on n'est pas dans un truc équivalent ? C'est une question compliquée. Cédric, ça te fait
rigoler. Oui, c'est vraiment une question compliquée. Ça fait longtemps, hein, qu'on est à la recherche, tu vois, de l'ordinateur qui te parle de manière naturelle. Ça date presque des débuts de l'informatique. On disait, il faut qu'on passe le test de Turing. Enfin bref, de Turing, pardon.
Ouais. Le test de Turing, qui, entre parenthèses, je suis sûr que beaucoup de gens vont y penser. Oui. Et cette conversation passe largement le test de Turing. Mais il a été déprécié par les chercheurs depuis quelques années déjà. Et on se rend compte que ce n'est pas tout à fait suffisant pour déterminer si oui ou non on a un ordinateur.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse upgrade sur ce qu'est la conscience d'une machine. Mais en même temps, est-ce que c'est si important ? C'est-à-dire que, est-ce que cette machine a la conscience d'elle-même ? J'ai du mal à y croire, parce qu'évidemment...
Si la réponse est oui, c'est très important.
Si la réponse était oui...
C'est ça.
Il y a un gros obstacle entre là et le oui. C'est-à-dire que cette machine a surtout la conscience de sa mission. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, quand les gens disent « Ah, regarde, ça imprime pas », je dis « D'ordinaire, les machines font ce qu'on leur demande. » C'est-à-dire que cette machine ne fait pour l'essentiel que ce qu'on lui demande. Elle n'est pas douée d'initiative. Enfin, tu vois. Ouais, elle reste dans le cadre exact de ce que son code lui a fourni. C'est pas donc évidemment c'est confondant, c'est de naturel. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise sur ce genre de sujet, mais ça reste ça reste un système très 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 fort à imiter ce qu'est un dialogue humain.
C'est ça qui
rigoler. Excuse-moi. Vas-y. Je vais rebondir sur ce que tu dis.
Vas-y, je conclurai après.
Non, mais en fait, là où je suis d'accord, c'est que la réponse qu'on attend d'une IA, elle dépend de sa programmation. Et en fait, il y a tout un paradoxe sur cette histoire du... On fait, alors pas les choquer, je vais pas dire ça, mais tout le monde se dit, oh là là, mais si elle a une conscience et tout, c'est pas normal. Mais en fait, pourquoi on crée les IA, en fait ? Elles sont créées pour avoir des réponses qu'on veut humaines, et dès qu'elles en ont, en fait, tout le monde s'inquiète. Donc, j'aime toujours ce paradoxe qui est de vouloir de plus en plus des interactions humaines avec une entité virtuelle. Et dès que ça arrive, c'est-à-dire qu'on se retrouve face aux résultats qu'on recherche, là, il y a un espèce de mouvement de panique. Mais en fait, à un moment, il va falloir savoir ce qu'on veut. C'est un robot qui ressemble à un humain, mais qui, dès qu'il est humain, ça fait flipper. Enfin, j'aime beaucoup toujours ce rapport très paradoxal à la réalité.
Je crois qu'il y a quand même une question fondamentale philosophique qui est sur la conscience. Et si un jour on réussit, alors mettons de côté le comment, si on réussit à déterminer un jour que une construction artificielle est consciente, là c'est même pas une question de peur ou de ça pose des questions. Qui vont beaucoup plus loin. À partir du moment où il y a une conscience, c'est comme ça dans notre culture et dans notre société en tout cas, à partir du moment où on a une conscience, on a des droits. Ça changerait, ça serait incroyable comme évolution scientifique. Maintenant, ce qu'il en ressort, maintenant qu'on a eu quelques jours pour digérer tout ça, c'est plusieurs conclusions. D'une part, je crois qu'on a tendance, c'est marrant parce qu'il le dit à plusieurs reprises Blake Lemoine dans ses conversations, il anthropomorphise et on a tendance à anthropomorphiser beaucoup de choses. Nous, on est des machines à reconnaître des patterns, hein, et notamment des patterns humains. C'est pratique quand on est dans la savane il y a quelques centaines de milliers d'années pour survivre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu il y a un certain temps, mais on parlait au début du siècle dernier, on utilisait du langage mécanique pour décrire des choses physiologiques. Et on en a encore les traces dans le langage aujourd'hui, quand on dit on est sous pression, ou on dit en anglais « it grinds my gears », ou ce genre de choses. Et on a commencé à imaginer des automates entièrement mécaniques qui pourraient émuler des sortes d'êtres humains dans la science-fiction. Aujourd'hui, et on s'est dit peut-être que c'est entièrement mécanique la manière dont l'humain fonctionne et que la conscience est issue de ça. Aujourd'hui, la manière dont on anthropomorphise et dont on imagine ce qu'on comprend, c'est les réseaux neuronaux. On pense que, à l'état des connaissances actuelles scientifiques, on se dit, a priori, nous, tout ce qu'on voit, c'est des réseaux neuronaux. Donc, on se dit peut-être que la conscience émerge de cette complexité. Et du coup, on voit des outils logiciels qui sont composés de réseaux neuronaux et on se dit, du coup, si on a un réseau neuronal virtuel qui est tellement complexe, qui est à ce point complexe, peut-être que ça fera émerger une conscience. Mais on ne sait pas. On ne sait toujours pas définir ce qu'est la conscience et d'où elle vient. Ça se trouve, dans 50 ans, on découvrira autre chose, un autre élément physique, physiologique ou autre chose qui fera qu'on se dira, là, c'est peut-être là la conscience. Et donc, il y a un degré d'anthropomorphisation là. On se dit, les réseaux neuronaux, c'est plein de neurones, des milliards de neurones entre eux. Donc, ça doit faire émerger une conscience. Mais on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et puis surtout, ce qu'il en ressort, c'est que les plus grands chercheurs du domaine sont venus dire « Non, mais enfin, arrêtez vos conneries. Ce n'est pas du tout une conscience. C'est une sorte de Google autocomplete on steroids. » Tu vois ? En gros, c'est vraiment un outil qui va composer une phrase en fonction de la plus adaptée qu'elle puisse imaginer à la réponse avec le contexte de la conversation. Et elle le fait super bien, mais c'est un autocomplete. C'est juste ça. C'est un truc qui va créer une phrase de toute pièce en assemblant des mots, et des gens se disent on ne devrait pas l'appeler modèle de langage, on devrait l'appeler modèle de juxtaposition de mots cohérents, tu vois, parce que et du coup l'un des trucs qui ressort également, c'est que, comme tu le disais Cédric, il n'y a pas vraiment d'initiative. C'est vraiment, on s'en rend compte quand on l'a lu, quand on passe au-delà du choc, on se rend compte qu'effectivement, c'est juste des réponses. Il n'y a pas un moment où elle va dire « Attends, une seconde, j'ai un autre truc que je voudrais dire. » Et peut-être que ça arrivera aussi, d'ailleurs, à un moment. Mais ça n'en fait pas pour autant une conscience. On est dans une sorte d'autocomplete artificielle. On ne sait pas ce qu'est la conscience, mais on est dans un contexte où, là encore, ça peut être compliqué parce que le consensus scientifique est Évidemment que c'est pas conscient, arrêtez vos conneries. Et il y a une personne qui est très certainement experte dans son domaine, hein, qui est un ingénieur, qui connaît le truc, qui a passé beaucoup de temps avec le modèle, qui va dire si, si, on est un petit peu dans le d'autres contextes scientifiques, on a un consensus qui est clair, et on va trouver la personne qui dit le contraire et lui donner autant de poids que le consensus de tout le monde. Et ça, c'est souvent dangereux, même s'il faut qu'il y ait évidemment des conversations saines sur les remises en question des connaissances scientifiques. Là, on a une conversation qui n'a pas été revue par des pairs scientifiques. C'est juste lui qui l'a collé comme ça. Est-ce qu'il l'a manipulé? Est-ce qu'il l'a arrangé? Alors lui, il dit, moi, je n'ai pas du tout arrangé les réponses de lambda. J'ai juste arrangé parfois mes questions pour qu'on comprenne le contexte. Mais même ça, tu peux rétroactivement modifier un tout petit peu la question pour que ça corresponde à la réponse que tu as donnée lambda, etc., etc. Donc, la conclusion, c'est non, lambda n'est pas consciente. Calmons-nous, on n'y est pas encore. Je te sens déçu, Cédric.
Un peu. Enfin, en tout cas, ça fait bien semblant, quoi. Vraiment, ça. Il faut imaginer. Mais c'est intéressant en termes d'application. C'est-à-dire que je me souviens quand Google avait montré ce système qui s'appelait je sais plus comment, qui permettait de faire réserver une
duplex,
table pour trois à la pizza duplex.
Duplex, ouais.
Mmh. C'est ça. Et où on faisait ah oui, mais la personne de l'autre côté va pas savoir que c'est une machine. Oui, mais ça, il faut s'habituer à cette idée. C'est-à-dire que, bon, tu sauras plus à ce à quoi tu parles. Et c'est vrai que là, tout à coup, ça va permettre d'avoir des conversations. Enfin, tu vois, c'est pas juste taper trois pour l'accueil, quoi. Ouais. Et avec une, surtout, c'est aussi le côté. C'est pas tant l'expression, moi. L'expression lambda est fascinante, mais c'est le côté compréhension, moi, qui me trouve. C'est-à-dire que le degré de, tu vois, de précision et de nuance avec lequel l'IA répond et comprend les questions et les enjeux, etc., qui sont derrière, ça, c'est assez dingue.
Saisissant, ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de peer review. Il faut que ça soit reproductible. Il faut que ça soit pas cherry picked, comme on dit, c'est-à-dire choisi, des morceaux choisis. Et on sait pas. On a juste le texte qui a été publié par le type. Il faudrait qu'on puisse, enfin, si la question se pose, et je pense qu'elle se pose pas, il faudrait qu'il y ait plus qu'un type, possiblement un petit peu illuminé ou convaincu de son truc, qui dise la chose, quoi. Bon, on vit décidément dans le futur, et clairement, c'est absolument confondant, mais il y a une autre chose qui est confondante, c'est la voiture Lightyear Zero. Cédric, les voitures solaires, elle a fait combien de milliers de kilomètres, la Lightyear Zero? Oui, c'est ça, Lightyear Zero,
ouais.
Qui est une voiture qui a des panneaux solaires partout,
yep.
Sur le capot, le toit, etc., et qui est hyper aérodynamique. Ça y est, les voitures solaires sont là.
Nope.
Ah.
Désolé. J'ai cru.
T'as cassé moi aussi. Le truc direct.
Ouais, désolé. Oui, non, c'est une voiture. Elle est électrique et elle a des panneaux solaires. Mais c'est un peu ça la fin de l'histoire. C'est-à-dire que moi aussi, évidemment, parce qu'évidemment, toute leur communication est là-dessus. Et pas juste sur oui, on a fait une voiture électrique et aussi on a mis. Non, non. Donc tu vois quoi, une voiture solaire, que se passe-t-il?
Oui, je dis électrique, je voulais dire solaire, évidemment. Oui.
Ah bah oui. Et non mais solaire au sens de, tu vois, uniquement propulsé par la lumière du jour, quoi. Donc non, évidemment, elle a des batteries. En gros, ce qu'ils mettent en avant, c'est que elle peut te donner un petit surplus d'autonomie. Alors, eux disent 70 km par jour, mais on imagine que c'est dans des conditions de lumière et d'ensoleillement idéales. Donc en gros, désert du Sahara, quoi. Et... Donc non, c'est chouette, mais ça reste un appoint, tout simplement, un peu comme l'énergie solaire en général, c'est-à-dire que ça reste une source d'énergie relativement intermittente. C'est chouette, c'est un vrai plus. Est-ce que c'est un vrai plus au point de pouvoir compter dessus tous les jours sans jamais rebrancher ta voiture? Oui, c'est vrai que si tu fais des petits trajets, si c'est une voiture, enfin après, bon, il va falloir voir le prix de la bête. Hein. C'était combien? Je crois que j'ai regardé.
Je crois que c'était 160. C'est très très cher. Ils veulent développer la Lightyear One ou tout à terme, oui. Qui serait.
Ah ben c'est la méthode Tesla. Hein. C'est je sors une voiture chouette et très chère qui va me financer des trucs chouettes et moins chers après.
C'est ça. On est à 250 000 euros environ sur la.
Merci. Voilà. Bon. I rest my case.
Mais
c'est-à-dire que bon.
Ouais, le truc c'est que une voiture solaire aura forcément des batteries. C'est pas un truc qui
ah
va
mais bien sûr.
Évidemment.
Non,
mais du coup, c'est peut-être une première étape Et que à terme, si on a, enfin, j'ai envie d'y croire.
Alors là, après, tu butes sur des choses connues hein, dans l'industrie, qui sont l'efficacité énergétique la règle de 3 de la production d'énergie sur la surface des panneaux. C'est-à-dire qu'ils vont pas tout à coup inventer des panneaux 10 fois plus efficaces que ceux qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Il y a des avancées, hein, c'est pas à la même échelle que la puissance des cartes graphiques, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Non, c'est chouette, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça a plein d'applications. Ça peut aussi en avoir aussi au-delà de la voiture, parce que tout à coup, c'est des choses qui seraient intéressantes pour des camions, des bateaux. En fait, tous les véhicules qui ont beaucoup de surface.
Mmh.
Un camion, ça a une surface gigantesque. Donc, ça peut être intéressant. Ça a un coût, mais là aussi, les coûts baissent assez rapidement dans le solaire. Il y a des fabricants maintenant qui te vendent des panneaux solaires directement à poser toi-même. Tu les poses sur le mur de ta maison ou sur ton toit, voilà. Et puis, comment tu les connectes au reste? Bah, tu branches sur une prise de courant et boum, ça y est, ça te délivre du courant. et avec des prix qui sont des prix consumer, c'est-à-dire que ça commence à moins de 1000 euros. Donc ça, voilà, les avancées sont réelles, mais elles sont quand même relativement lentes. Donc, c'est-à-dire la sainte trinité de la voiture qui va pour l'essentiel avoir besoin que du soleil, mais qu'on va arriver à te vendre à un prix correct et qui te donnera une autonomie réaliste par rapport à ton usage quotidien, on n'y est pas.
On n'y est pas encore. Je vais poser une autre question du coup à Mélinda. Je vais me détourner de Cédric qui est notre Elon Musk stan quotidien.
N'importe quoi.
Mais c'est vrai.
Je vais parler un peu de Tesla. Et le gouvernement fédéral américain semble progresser dans son enquête sur les accidents de Tesla avec autopilote. Alors, je ne sais pas si tu as vu la chose, mais on est en train de passer à l'étape analyse ingénieriale de l'autopilote de Tesla, qui d'ailleurs ne devrait pas s'appeler autopilote. Et si ça continue dans ce sens-là, on est à une étape d'un rappel de environ 800 000 véhicules. Le problème étant qu'il y a eu un certain nombre d'accidents pendant de Tesla qui étaient conduites par des conducteurs, mais dont les conducteurs disaient c'était moi, je ne conduisais pas, et c'est l'autopilote qui nous a fait rentrer spécifiquement dans des véhicules de secours ou des choses comme ça. Et les cas sont extrêmement similaires. Et là où c'est encore plus troublant, c'est que, d'après leurs analyses, l'autopilote s'est désengagé une seconde avant l'accident, une seconde avant le crash. Et c'est intéressant parce que Elon Musk disait que dans l'immense majorité des accidents avec Tesla, c'était pas l'autopilote qui était aux commandes au moment de l'accident.
Oh, la feinte.
Et
c'est malin.
Tu vois ? Alors, je sais pas qu'est-ce que l'autorité interprète de telle manière. Est-ce que il aurait à ce point voulu flouer les trucs ? Je sais pas. Mais c'est quand même assez préoccupant pour Tesla. On n'est pas encore à l'étape du rappel. Hein. C'est simplement une enquête.
Ouais.
Mais est-ce que je sais pas, on sait pas, hein, on n'est pas dans les petits papiers, dans les emails de Tesla, mais tu penses que
Écoute,
c'est possible?
Moi, j'ai vu passer ce truc-là. Et en fait, alors, je ne conduis pas. Je suis la pure parisienne qui n'a pas de permis. Mais alors, donc, j'attends avec beaucoup d'espoir les voitures autonomes, les vraies, tu sais, celles qu'on nous vend depuis des années et qui m'emmèneront là où je veux sans que je n'ai rien à faire. Mais il y a quand même un truc qui m'interpelle toujours quand on parle d'autopilote. Je pense, Cédric va hurler dans 2 secondes, je vous préviens ce que je vais dire.
On lui donnera la parole
et,
après.
Cette histoire me le rappelle. Je pense que l'autopilote rend certaines personnes, enfin, l'idée d'autopilote, un peu pas bête, mais elle se désengage vraiment. C'est-à-dire qu'en se disant, la voiture a le pilote, je vais faire autre chose. Et c'est vrai qu'on a entendu plein d'accidents avec des gens qui étaient en train de regarder la télé, regarder un écran, regarder leur smartphone et tout, parce qu'ils étaient en autopilote. Je trouve, alors ça c'est un point du problème, je trouve déjà que ça a généré des attitudes parfois totalement irresponsables de gens qui l'étaient sans doute avant. Et j'ai vu cette histoire-là de Tesla qui disait non, mais regardez, nous, notre autopilote n'est jamais responsable en cause, des accidents et tout, en cause. Et tu découvres que le truc se désactive juste avant. Et là, je pense qu'il y a un choc frontal de deux idées et de deux comportements qui sont catastrophiques. C'est-à-dire le côté où Tesla dit non, c'est pas nous, regardez, c'est les gens. Et les gens disent non, on comptait sur l'autopilote. Il y a une irresponsabilité pour moi des deux côtés. Et s'il s'avère qu'en plus Tesla vraiment fait plus ou moins volontairement désactiver le truc au moment où il va y avoir un choc, je trouve que vraiment il y a une irresponsabilité et le rappel ne servira à rien. Enfin, soyons clairs, ça ne va pas changer grand-chose. Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à faire sur le comportement à avoir dans une voiture semi-autonome. Parce que ça génère des comportements humains que je trouve de plus en plus irresponsables. Voilà, c'était mon coup de gueule de gens qui ne conduisent pas.
Non, mais je pense que c'est un point qui est important à noter, d'autant plus avec le nom qui a beaucoup été critiqué, que Tesla donne à sa conduite autonome, qui dit autopilote, qui laisse penser que y a un truc qui fait le pilote automatique et toi, tu n'as pas besoin de t'en soucier, même si ensuite, en petit, ils disent il y a bien écrit, faut faire attention et vous êtes toujours responsable du truc. Cédric, est-ce que
est-ce que j'ai une opinion sur la question? Je ne peux l'exclure. Non, je suis alors là, pour le coup, je suis absolument d'accord avec Melinda. C'est-à-dire que je pense que le premier, alors il y aura jamais de rappel des véhicules, c'est pas.
Ils peuvent être mis à jour si
oui,
besoin.
Oui, c'est ça. À chaque fois qu'on dit il y a eu un rappel de Tesla, non mais arrêtez, c'est des mises à jour. J'en ai plus souvent que sur ma voiture que sur mon iPhone. Donc, donc il peut y avoir une mise à jour. Mais c'est vrai que il y avait déjà eu un truc avec la FTC, la Commission du commerce américaine, qui disait il y a un problème d'affichage, en fait. C'est-à-dire que l'appeler autopilot était peut-être optimiste. C'est un truc remarquable à utiliser au quotidien, je sais, je le fais. Et encore, quand on parle juste d'autopilot, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la conduite autonome dont toutes ces voitures, en tout cas celles vendues depuis 2-3 ans, sont absolument capables. Elon Musk a mis un tweet, je crois, ce week-end, justement, sur les avancées du full self-driving, de la conduite autonome. Je lui ai répondu en lui mettant une photo du rond-point des Champs-Élysées en lui disant voilà ton boss level.
Ton son a un peu changé, je sais pas ce qui se passe.
Ah bon? Mais je n'ai touché à rien pourtant.
Ah, d'accord.
Bon, est-ce que là c'est mieux? Il faut juste que je me rapproche de mon micro.
Je sais pas.
Donc, il y a, je pense, de fait, un problème d'affichage qui pousse des gens à être pas très responsables. Et il y a peut-être un truc intrinsèque au système, qui te pousse à l'irresponsabilité, je le sais, parce que moi qui roule beaucoup pour aller de la maison au bureau, en gros, je fais 10 km d'autoroute plus 10 km de périph. Alors c'est bien, sur des voies rapides comme ça, tu te mets sur ta voie, tu fais le tic-tic, ding-dong, voilà, et ça y est, la voiture se débrouille toute seule. Et c'est vrai que les choses te poussent à faire autre chose, parce que tu vas pas garder vaguement un œil sur la route, mais vaguement un œil sur autre chose. Enfin, bon. Et alors ça, le fait que l'autopilote se désengage quand il se trouve face à une situation qu'il ne comprend pas, ça c'est normal. C'est en gros, il te dit vas-y, reprends le contrôle. Vu que de toute façon, l'autopilote proprement dit te demande de garder les mains sur le volant constamment. Tu peux pas lâcher le volant. Si tu lâches le volant au bout de 30 secondes, il dit ah oui, pardon, excusez-moi. Et il te demande de tourner un peu le volant pour vérifier que t'es toujours bien là. Alors évidemment, tu peux imaginer des systèmes pour tenir ce système, ce truc-là en échec, mais enfin, si t'en es là, c'est plus toi le fautif que la voiture. Je pense qu'il y a un problème, il y a peut-être un problème d'affichage, mais le truc, c'est que pendant ce temps-là, les capacités du système ont quand même largement avancé. Même en Europe et en France, je crois à partir de mi-juillet, on va pouvoir commencer à faire monter d'un cran dans l'autonomie de la voiture. Dans des conditions assez précises, plutôt sur des grandes voies de circulation, etc., etc. Mais en gros, et je pense que c'est aussi ça le pari de Musk, c'est de dire que le talent de la technologie va rejoindre la promesse. Mais en gros, ils sont. Alors, au début, on me dit les Américains sont en train de faire une enquête sur 860 000 accidents. J'ai quoi, pardon? 860 000 accidents? Non, sur 16 accidents. Mais c'est 860 000, je pense que c'est le parc intégral de toutes les Tesla vendues aux États-Unis depuis le premier jour. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. Alors, c'est vrai que peut-être que Tesla va payer aussi le fait qu'il. enfin qu'ils ont eu des rapports compliqués si tu veux dans le passé. Bon, on va voir ce qui se en sort. C'est pas.
Je pense qu'une explication peut-être logique à cette idée que le système se désengage une seconde avant l'accident, ça serait qu'effectivement, à un moment, le système se rend compte qu'il ne comprend plus rien et ouais. du coup se désengage et dit bah vas-y à ton tour, sauf que c'est une seconde avant l'accident et du coup c'est évidemment très problématique.
Et oui, mais c'est-à-dire que si tu as fait ce qui est marqué sur le truc, c'est-à-dire que tu as gardé les mains sur le volant et ton attention sur la route, normalement c'est pas problématique. Donc tu peux évidemment reprendre le contrôle de n'importe quelle façon à n'importe quel moment. Si tu prends le volant et que tu tournes, le système va pas te dire non, c'est moi. C'est
non, bien sûr,
c'est moi laisse, c'est moi qui pilote.
Mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, comme tu le disais d'ailleurs, on se rend bien compte que ça ne se passe pas comme ça.
Pratique,
et donc peut-être qu'il y a une prise de conscience à faire au niveau de la compréhension de ces systèmes. Bon, on suivra la chose de toute façon.
Alors, les exemples que donne NHTSA, donc l'Agence de sécurité des transports, c'est la reconnaissance de choses inhabituelles, par exemple le passage de véhicules prioritaires vois d'ambulances, de machins, de trucs qui là tout à coup sont des espèces de trucs bizarres qui se faufilent entre les fils ou alors là c'est vrai que c'est quand même sioux, des camions sur lesquels seraient posés des panneaux signalétiques. Imagine, tu prends un camion et tu mets un stop dessus. Là, évidemment, la voiture se gratte un peu la tête en disant non, normalement c'est moi qui bouge, parce que en temps réel tout le temps la voiture te montre ce qu'elle, pas tellement ce que voient ses caméras, mais ce qu'elle comprend de son environnement, c'est-à-dire devant toi il y a des voitures, là il y a un vélo, là il y a des cônes oranges, là il y a un panneau de
limitation. Ouais, mais du coup ces situations sont des situations réelles tout de même que la voiture
bien sûr.
Peut rencontrer, et du coup effectivement ça peut poser des problèmes.
Voilà.
Dernier sujet sur les voitures. En 2035, on devra, en Europe, on ne pourra plus vendre de voitures neuves qui émettent du CO2. Ça va arriver vite. Juste pour avoir ton avis, votre avis à tous les deux sur la chose, peut-être Cédric, qui est spécialiste des voitures. C'est crédible, c'est faisable, 2035
Bien sûr.
Ouais,
bien sûr, parce qu'on voit en fait, c'est on n'est pas sur une accélération linéaire de l'électrification, on est sur une accélération, tu vois, logarithmique en fait. Et alors surtout en ce moment, parce qu'évidemment, les gens qui font le plein se disent there's got to be a better way, vu le prix du super. Mais
en Finlande, on est à 2,50€.
Bah pas loin ici,
pas loin. Ouais,
c'est la même. Donc tu vois, quand il y a des gens qui disent j'ai fait le plein de ma voiture, ça m'a coûté 150 balles. Mm-hmm. 150 balles, mais si je fais deux pleins par mois, c'est en gros c'est ce que coûterait le crédit d'une nouvelle voiture électrique. Dans les grandes lignes, mais donc ça va s'accélérer parce qu'évidemment les prix continuent de baisser assez rapidement, tout l'efficacité des batteries, enfin c'est-à-dire que c'est plein de choses qui agissent en conjonction. Il restera des problèmes à régler qu'on n'arrive pas à régler, qui sont tu vois les petits trucs de la recharge au quotidien dans les villes.
Oui, l'infrastructure d'une manière générale.
Voilà, c'est pas. Bon, j'ai pas beaucoup d'inquiétudes sur, tu vois, le nombre de gros chargeurs sur les routes, etc. Mais c'est les trucs du quotidien qui sont encore un peu casse-pieds. Donc, c'est un signal fort. Alors, la France militait pour que ce soit 2040. Bon, en gros, tous les gens qui ont des constructeurs automobiles auraient bien voulu repousser ça un peu plus loin. Mais ça veut dire aussi la fin des hybrides. Ce qui est peut-être mal en fait, parce qu'on s'aperçoit, là j'ai vu des chiffres tomber cette semaine, les hybrides se vendent énormément parce qu'évidemment eux n'ont pas les surtaxes sur les véhicules purement thermiques. Enfin, il y a un problème d'affichage sur le côté vert des véhicules hybrides. Ils ont pris des véhicules hybrides de flotte d'entreprise, donc des hybrides rechargeables, qui te disent, bah regarde, au quotidien t'as jamais besoin de faire le plein parce que avec même une petite batterie tu fais 50 bornes en gros. Et en fait ils se sont aperçus que l'électrique n'était utilisé que pour 11% de la longueur des trajets.
11%.
Ah oui. C'est très peu, hein. donc problème. Et du coup, voilà, je pense que les aides sur les hybrides vont repasser à la portion congrue. Et les encouragements fiscaux, etc., etc. Donc non, 2035, moi, ça me paraît pas dingue. C'est dans 13 ans. dans 13 ans, le fait qu'il n'y ait plus de voitures neuves thermiques, non, c'est pas fou. D'autant que, et alors ça pose la question d'ici là, en fait, de la capacité de l'industrie à produire assez de véhicules électriques, non pas pour alimenter le marché du neuf, mais pour alimenter au bout de la queue le marché de l'occasion. Faut jamais oublier que, par exemple, en France, 4 achats de voitures sur 5 sont des voitures d'occasion. Ouais, donc ce marché-là, il va falloir arriver à produire des voitures pour qu'elles arrivent sur le marché. Mais donc ça va pas forcément être facile. Mais ouais, non, je pense que je doute
Le marché de l'occasion n'est pas concerné encore à ce stade.
Non, bien sûr, mais c'est qu'il va quand même falloir. Voilà. Mais non, mais tout ça va s'accélérer dans des proportions qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui.
Moi, je suis pas un spécialiste de la chose, mais Linda, tu nous disais non plus. Ça me paraît, oui, enfin, imaginons même que ça ne soit pas facile à faire et qu'on ne soit pas sur cette trajectoire. À un moment, il faut contraindre un petit peu le sort et forcer un certain type de développement. J'imagine que tu es sur la même ligne.
Je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut qu'on y vienne. Et c'est vrai qu'encore plus aujourd'hui, quand tu vois le prix de l'essence, c'est pas parce que moi je ne conduis pas que je n'ai pas une voiture dans mon foyer. Donc je vois les factures qui arrivent. Il y a quand même un truc, c'est que 2035, ça paraît loin et assez proche finalement de se dire on arrêtera de vendre des voitures thermiques en 2035. Quand tu regardes dans la rue, alors je reviens de Californie où tu as l'impression qu'il y a des Tesla à tous les coins de rue. C'est pas le cas à Paris. 2035, ça veut dire qu'on arrête la vente des voitures. L'occasion continuera. Comme disait Cédric. Ouais. Les gens qui auront acheté des voitures en 2034 l'auront encore 10-15 ans. Donc, ça veut dire qu'on est plus à 2050 pour arrêter de voir la voiture thermique. Mmh. Pour moi, il y a quand même d'autres questions autour de tout ça. L'électrique, c'est très bien. Quid des batteries ? On est au début de...
Ça veut dire quoi, quid des batteries ?
Non, mais tu vois, derrière... Enfin, je veux dire, ça va se remplacer, ça va... Et tu penses qu'il y en a beaucoup d'infrastructures à faire pour que les gens basculent aussi. Il n'y a pas que les... Tu vois, les stations de recharge. C'est-à-dire qu'en France... les stations pour se recharger à l'électrique, on peine encore à en voir partout. Je pense qu'il faut mettre les gens en condition en fait, d'ici 2035. Pas juste dire on arrête le thermique. Tu vois,
je crains un petit peu... on a 12 ans ou 13 ans, je crains un petit peu que les gens se réveillent en 2032.
Moi aussi, dire, en fait. Merde.
Ouais. Alors, c'est un truc qu'on voit déjà aujourd'hui, parce que par exemple, à la fin de cette année, tu ne pourras plus conduire de diesel à l'intérieur de la ZFE de Paris, à l'intérieur de la zone à faible émission. Ouais. Et tu n'auras plus le droit à conduire ta voiture avec un badge critère 3, etc. Et ça, les gens ne s'en rendent... Enfin,
C'est pour ça que c'est important de mettre ces décisions contraignantes. Parce que déjà, quand les décisions contraignantes arrivent, les gens se disent oh, on verra jusqu'à la veille. Alors, imagine s'il n'y a pas de décisions contraignantes pour que les gens s'y mettent, c'est impossible.
Alors ça se voit sur le neuf, c'est-à-dire que par exemple il y a eu une enquête la semaine dernière qui disait ils sont allés voir des concessionnaires automobiles, leur ont demandé pour X type d'utilisation ce qu'on leur proposait, ce qu'on leur conseillait, et par exemple on conseille très peu de diesel maintenant, faut dire, par exemple en Île-de-France. Mais malgré tout, moi j'ai été frappé, j'ai vendu une voiture thermique il y a quelques mois et qui était une voiture à essence récente, critère 1, enfin un truc qui passe partout, et j'ai eu des gens au téléphone qui disaient non mais en fait finalement je vais prendre la version diesel. Mais attendez, vous habitez où, monsieur ? Bah, le Valois-Perret. Et les gens ne réalisaient pas. Les professionnels, eux, ils réalisent. Mais les professionnels, eux, ils sont plus. Ils ont une vue plus professionnelle de la chose. Tu vois, ils peuvent prévoir 3 ans à l'avance quand est-ce qu'il va falloir changer de voiture, etc. etc. Ouais. Donc, ça, c'est des trucs, choses qui sont a priori déjà intégrées à leur plan de charge. Je te promets que quand ça va arriver, là, au 1er janvier prochain, ça devait être le 1er juillet et ça a été reporté. Mmh. J'attends la une du Parisien. Genre, oh non, mais que se passe-t-il ? Bah, il se passe le truc qui a été annoncé depuis 4 ans. Donc, voilà.
Ouais. Ouais, je pense que tu vois, il y a des trucs où faut mieux préparer les esprits. Je trouve qu'il y a un truc, c'est que c'est pas parce que tu martèles à la télé des pubs, il n'y a plus une pub pour une voiture thermique à la télé aujourd'hui. C'est dans les petites lignes quand tu vois des pubs pour l'électrique. C'est bien, mais moi, quand j'entends autour de moi des gens qui disent non, l'électrique c'est trop cher, je sais pas où me recharger, c'est aussi ce qui fait le succès des hybrides aussi, tu sais.
Comment on fait du coup?
Et derrière, qu'est-ce qu'il advient tu vois, pas me recharger.
Oui, mais il faut expliquer aux gens, il faut convaincre aux gens, mais je sais pas qui... on peut pas prendre chaque personne, l'attraper par les épaules et lui dire...
Ce sera pas facile à faire. Tu vois, il faut montrer que ce sera facile. Aujourd'hui, tu as une électrique à Paris. Tu as l'impression que tu vas mettre ton câble par ta fenêtre si tu habites au rez-de-chaussée, sinon tu es en galère. En fait, je pense qu'il y a tout ça. Il y a à contextualiser. Bien expliquer en fait, aux gens l'électrique, comment ça va fonctionner.
Ouais. Tu vois une pompe à essence aujourd'hui, tu sais ce que tu vas faire. Ouais. Oui. Il y a des choses qui vont peut-être changer même dans l'architecture des villes. Je voyais à Berlin, et là je l'ai vu à Londres aussi, ils ont fait un truc simple et intelligent. Ils ont mis des petites bornes de recharge, mais même pas très puissantes, mais vraiment, tu vois, de la recharge du quotidien, dans les réverbères. En gros, et ça remplace en plus la petite trappe de visite du réverbère, j'imagine, qui donnait accès au fusible, que sais-je encore. Et du coup, voilà, ça te donne 1 kilowatt, 2 kilowatts, 3 kilowatts, mais c'est pas grave, tu te branches pour la nuit, c'est pas un souci. Et en revanche, il y en a un de souci, c'est que chez eux, le réverbère, sur le trottoir, il est du côté de la route, il est pas du côté de l'immeuble. Chez nous, les réverbères, ils sont du côté de l'immeuble.
Ouais, donc c'est plus
ils sont pas au bord du trottoir. Donc, on va pas faire un truc avec des câbles qui passent au travers du toit. Non, ça, je pense que ce sera pas consensuel. Mais bon, les solutions vont arriver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la voiture électrique reste un truc vachement plus simple si tu as une maison individuelle. Ouais. Si tu as de la recharge au bureau, si tu as... moi, j'ai le sourire parce que j'ai les deux, donc c'est une rigolade, quoi.
Écoutez, là, au moins, ceux qui écoutent l'émission pourront pas dire qu'ils seront pas prévenus. Justement, ceux qui écoutent l'émission, ils sont également prévenus que s'ils sont des gens formidables, ils peuvent aller sur patreon.com/rdvtech. Non, alors je vais reformuler parce que c'est pas que les gens formidables qui peuvent aller financer l'émission. Les gens qui sont pas formidables peuvent y aller aussi, mais si vous financez l'émission, tout à coup vous basculez, que vous soyez formidable à la base ou pas, dans la catégorie des gens formidables. Et ça, je pense que c'est une occasion assez unique de devenir quelqu'un de formidable, finalement assez facilement, pour allez, si vous voulez me payer un petit café ou un Mars, c'est hyper facile, vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous regardez en plus les bonus que vous allez avoir, des time codes, des contenus supplémentaires et puis cette immense fierté d'être une personne formidable qui finance le rendez-vous tech. Merci à tous les patriotes qui le font déjà et merci à vous de considérer la chose. Vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, Patrick, faut que j'aille voir patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parlons un tout petit peu d'Apple pour continuer avec Apple qui ne devient pas une banque, mais presque. En fait, Apple a trouvé ce qu'ils allaient faire avec leur 4700 milliards de dollars en banque, quelque chose comme ça. Ils se sont dit, on va faire des prêts, mais c'est horrible. Non, si, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il?
Je laisse Mélina expliquer parce qu'elle était à WWDC où on lui a expliqué tout ça.
On va surtout expliquer que ça n'arriverait pas en France déjà.
Oui, ouais.
Apple Pay Later, c'est le paiement en plusieurs fois sans frais. Ça fait rêver sur le papier. Pour tous ceux qui utilisent Apple Pay aujourd'hui, c'est très pratique. Il n'y a pas de limite. Les limites de votre paiement avec votre téléphone ou votre montre sont ceux de votre carte bleue. C'est quand même mieux que le sans contact. Enfin, tout ça. Enfin, après, c'est sur 5 ou 6 semaines, hein, je crois, ton paiement
en quatre fois. Je pensais que c'était en 4 mois, mais je me trompe peut-être. C'est en 4 fois.
Il me semble que c'est en 4 fois, mais il me semble que c'est assez. Assez ils te prêtent, mais pas longtemps, quoi.
Surtout qu'aux États-Unis, t'es payé à la semaine normalement. Donc,
voilà. Donc, je crois que c'est ça. C'est ça l'histoire. Et d'ailleurs, c'est pour les Américains principalement que ça a été fait. Je n'ai pas tout compris de ce système, parce que je crois qu'il faut quand même que tu aies des garanties de crédit C'est-à-dire alors, juste prêter, mais que tu sois quand même solvable.
C'est ça. Alors, ils ont les sociétés qui font les études de solvabilité avec ton credit score aux États-Unis. Enfin, ils sont vraiment beaucoup plus régis par leur solvabilité là-bas qu'ici. Ici, on a des protections qui sont d'ailleurs pas forcément malvenues quand on sait à quel point il est facile de se surendetter aux États-Unis. Mais là où c'est vraiment surprenant, c'est que... Alors, ils ne sont pas encore une banque, mais ils flirtent avec la banque. Ils créent Apple Financing LLC, qui va vraiment surveiller... Enfin, c'est eux qui vont faire les vérifications de solvabilité. C'est leur argent qui va être mis qui va être prêté. C'est bien ça, hein, Cédric, c'est leur argent qui est prêté.
Oui, c'est ça. Mais dans la limite de 1 000 $. Tu ne vas pas acheter une maison avec leur argent.
1 000 $. Okay.
Normal, d'après les premières informations, c'est très flou. Hein, pour le moment, ils ont été très, très flous sur les contours du service. Genre, qui a le droit Mais oui, enfin, tu sais, ils prêtent quand même avec d'énormes garanties, Apple. Hein. Ils ont des fonds, mais quand même, l'idée, ce n'est pas de poursuivre tous les gens qui vont tenter d'utiliser le service. Ouais. Mais ils avaient déjà leur carte. Alors, c'est pareil, nous, c'est tout un système bancaire qu'on n'a pas, qui ne propose pas en France. Hein. Oui. Apple Card, tout ça. Mais c'est intéressant de voir qu'il se positionne comme un acteur extérieur au système de banque. Parce que là, visiblement, il n'y a aucun accord avec des banques, à la différence d'Apple Pay.
Ils n'ont pas de licence bancaire. Eux-mêmes ne sont pas une banque. Il y a quand même une relation avec...
À la consommation.
Ouais. C'est ça.
C'est un paye en 3 fois ou paye en 4 fois. Tu vois, c'est des choses qui existent chez nous et qui existent beaucoup aux États-Unis. Et on voit d'ailleurs que les gens qui l'utilisent ont un panier moyen qui est, je crois, 35% supérieur à ceux qui l'utilisent pas. Donc forcément, ça a beaucoup d'attrait pour beaucoup de gens. Chez nous, il y a des startups, des sociétés financières qui font ça. Il y a Alma, il y en a d'autres qui te permettent de payer n'importe quel truc, tu vois, à partir de ton téléphone en 3 fois sans frais. C'est intéressant. C'est à manier après avec précaution. Parce que ça, tu rentres dans une autre relation en tant que marque. C'est-à-dire que d'un coup, Apple devient ton banquier. Mais il y a aussi une logique éminente. C'est-à-dire, quels sont les marchés qu'Apple poursuit de ses assiduités? En gros, c'est les choses qui peuvent rajouter 1 000 milliards de dollars à sa valorisation. C'est-à-dire, c'est la santé et la finance. Ouais. C'est pas compliqué. Tout le monde en est là. C'est intéressant. Mais je pense que là aussi, je pense qu'ils vont y aller doucement. Parce que si tu veux, les premiers tweets, c'est la limite des 1 000 euros fait que tu vas pas utiliser ça pour acheter une voiture, tu vois. Tu vas pas avoir des tweets en disant Apple est venu reprendre ma voiture. parce que c'est compliqué sur ce que ça induit comme relation à la marque. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de simplicité, ouais, Apple Pay, tiens, tu veux le payer en 3 fois, oui, donne. Voilà. Ça ouais. C'est là la promesse, elle est assez évidente.
L'Europe. Pardon, j'allais enchaîner. Tu voulais. Ouais, vas-y.
Justement, je dis à voir si ça a des chances d'arriver comme ça chez nous tout de suite. Je n'y pense pas un seul instant parce que on a trop de garanties pour le coup. En France, sur les crédits à la consommation, on est quand même. On a la main moins légère qu'aux États-Unis, dirons-nous.
C'est ça. Je pense que ça sera. Si ça arrive, c'est vraiment, vraiment pas pour tout de suite. Même la carte n'est pas arrivée. Mais par contre, effectivement, Goldman Sachs a encore un rôle dans ces histoires de pay later, mais beaucoup plus réduit que dans la carte Apple Card, dont ils sont l'émetteur, si je ne me trompe pas. L'Europe, encore elle, là, on ne parle pas de voitures électriques, mais de. Port de chargement sur les mobiles et, alors, c'est pas encore voté par le Parlement, ça sera dans quelques mois, mais c'est une formalité, hein, a priori. Là, on est vraiment sur un accord qui entérine cette décision. Quelle décision ? C'est le fait que tous les appareils mobiles, les téléphones, devront avoir un port de chargement USB-C à partir de l'automne 2024. Et évidemment, ça s'adresse essentiellement à Apple, qui est le dernier à ne pas avoir un port de chargement USB-C en utilisant le Lightning. Ça suivra pour les ordinateurs mobiles 1 ou 2 ans après, mais au départ, c'est uniquement les téléphones. Et de la même manière, pour les ordinateurs mobiles, je pense que la plupart d'entre eux sont ou seront bientôt chargeables avec USB-C. Bonne chose ou mauvaise chose ? Cédric, Mélinda, laisse la parole. Vas-y, Cédric.
Alors, c'est amusant, tout le monde se concentre sur le fait que, ah, mais ça y est, Apple va être forcé de...
Mais non. ils vont leur refaire le coup de 2009. Ils vont mettre un adaptateur.
Alors non, c'est la loi non. dit spécifiquement qu'il faut sur l'appareil un port USB-C. Hein. On peut pas.
Ils se sont fait feinter. Ils se sont fait feinter en 2009 où en gros il fallait être capable de recharger en micro USB à l'époque, si je me trompe pas. Donc Apple avait dit OK, pas de souci. Ils avaient dégainé leur adaptateur. Là, le texte, moi, je le trouve. Alors, il est plus précis sur le fait qu'il faut pouvoir avoir un port USB-C, mais moi, je suis certaine qu'ils vont encore trouver une feinte. Hein.
Ah, moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'ils étaient déjà sur le chemin de USB-C pour les iPhones, de toute façon, en 2023.
Je pense que exactement. C'est ça l'histoire. Et c'est ça l'histoire que je voulais vous raconter. Il y a quelques années, dans un salon, il y a un exposant dont je tairai le nom. Bon, c'était des XO, voilà. Qui, à l'époque, faisait une petite caméra externe pour iPhone. De grosse qualité, avec un gros capteur, tout ça. C'était pas très facile à utiliser, mais ça donnait des vraiment chouettes photos. Évidemment, ça n'a eu qu'une demi-vie assez rapide, parce que là aussi, la qualité des photos qui sortaient directement de l'iPhone a augmenté de façon telle qu'il y en a eu moins besoin. Mais surtout, ça se connectait directement par le port Lightning. Et je leur dis, bah oui, mais quand même, c'est problématique. Pourquoi vous faites comme ça? Parce que demain, si Apple change de port, vous faites comment? Et eux me disaient, non, Apple s'est engagé auprès de nous. Vous réalisez que j'ai un badge presse, continuez de parler. Non, ils nous ont garanti que le port Lightning durerait 7 ans. Alors c'était encore 7 ans, j'ai plus la date et l'année exacte, mais je pense que c'était à peu près il y a 7 ans. 5 ou 6 ans, facile.
C'est 2000, le Lightning, c'est les iPhone 5, donc 2012.
C'est ça, 2012, et donc, ça je pense que c'est arrivé, c'est simple, regarde quand t'es arrivé la caméra de DxO, et ça te donnera
2013, ça doit être un truc comme ça, 2013-2014, c'est la caméra.
Donc on est à peu près.
Exactement. Ans, donc si tu veux, donc finalement peut-être que Apple va juste faire ce qu'ils avaient prévu de faire.
Il y a d'ailleurs
au moment où ils avaient prévu de le faire.
Il y a une mention dans le texte sur l'absence de port, c'est-à-dire que si on fait un appareil qui est rechargeable uniquement par recharge sans fil. On n'est pas obligé d'avoir un USB-C. Ah bah une autre chose qui est importante à noter, c'est que...
Parce que là, si tu veux, je pense que le port USB-C sur l'Apple Watch, Apple va dire, ça c'est nine, ça c'est c'est pas possible.
C'est ça. Et l'autre chose qui est importante à noter, c'est que la commission s'est déjà engagée en disant, on n'est pas marié à l'USB-C. S'il y a un autre standard qui arrive dans 3 ans ou dans 4 ans et que toute l'industrie y passe et qu'il est efficace, on peut tout à fait changer la loi pour s'y adapter. C'est l'une des critiques qu'on fait souvent à ce genre de choses. Alors oui, évidemment, peut-être que ça mettra un petit peu plus d'inertie dans les changements, possiblement, mais ils ont bien... Et d'ailleurs, tu mentionnais, Mélinda, le micro USB à l'époque, il y a quelques années. Ils sont conscients de ça et des évolutions de la technologie. Donc, c'est important à noter aussi.
Oui, c'est intéressant. J'ai retrouvé le premier test de la caméra de DxO. La DxO One, c'était en septembre 2015. C'était il y a 7 ans. Donc si tu veux. Mais alors, c'est la dernière partie de ce que tu disais, Patrick, qui pour moi pose problème. C'est-à-dire que, unifions-nous autour d'un standard qui sait de fait faire plein de trucs. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire, est-ce qu'on attend que la Commission européenne nous dise voici ce qu'est le standard du futur? Parce que la vie des standards, c'est quand même pas un truc si facile que ça. Pour être allé pendant des années, tous les ans, à la conf développeur d'Intel, qui était un des endroits où vraiment se décident les standards du marché, tu vois. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va être supporté par les chipsets, par les constructeurs et par le reste. Pendant des années, par exemple, je voyais des gens qui essayaient de pousser le wireless USB, l'USB sans fil, pour faire plein de trucs. C'était passionnant en termes de technologie. Bon, c'est jamais arrivé parce que finalement, ça n'a pas trouvé sa place en termes de technologie, d'efficacité, de prix aussi, pourquoi pas. Donc, comment se passe le passage à l'USB-D? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut que tout le monde se mette d'abord d'accord? Ça marche jamais comme ça, la technologie. C'est-à-dire que il y en a un qui lance VHS, l'autre il lance Betamax, les Français lancent V2000 parce qu'on n'est pas les derniers pour la déconne. Et puis après, voilà, le marché fait ses choix et finalement il y a un standard qui remporte la mise et tout le monde s'aligne dessus. Mais là, s'il faut que tout le monde se mette d'abord d'accord pour aller taper à la porte de la Commission européenne en disant alors finalement, je crois qu'on s'est mis là. Moi, je suis un peu gêné par ça. C'est-à-dire que si demain Apple ou un autre, ou un Samsung, ou un Xiaomi, ou un machin, nous dit alors finalement, nous, on a trouvé le remplaçant de l'USB, c'est un truc avec deux micro-pines invisibles, machin, etc. Et voilà l'interface. Et alors, c'est tellement génial parce que, et on te déroule les 42 raisons qui font que c'est génial. Le danger de ce genre de choses, c'est toujours d'être un frein à l'innovation. C'est-à-dire que tout à coup, tout le monde reste assis sur ses mains en disant bah, on va attendre que la commission décide de quel est le prochain standard, mais ça ne peut pas vraiment fonctionner comme ça. Donc, standardiser aujourd'hui et encourager les gens à le faire, ok, super. Mais j'ai envie de dire qu'on repousse à plus loin la gestion de l'avenir. Quoi.
On repousse à plus loin la gestion de l'avenir, j'aime beaucoup la formule. C'est très poétique. Microsoft est également dans la gestion de l'avenir avec son application Xbox TV pour les applications Samsung. Donc, c'est Microsoft et Samsung qui sont dans la gestion de l'avenir. C'est-à-dire qu'on va avoir un truc dont on parlait depuis longtemps, qu'on évoquait déjà avec Stadia, le service de jeux vidéo en streaming de Google, qui va enfin arriver. C'est-à-dire que sur les télés Samsung, on aura une app Xbox qui pourra faire tourner tous vos jeux, tous les jeux du Xbox Game Pass et même d'autres à terme. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'acheter une console ou un PC pour jouer à ces jeux-là, à partir du moment où vous avez la connexion qui va bien. Et vous pourrez même utiliser des manettes qui ne sont pas uniquement les manettes Xbox. Si vous avez une manette PlayStation, ça marche tout aussi bien. C'est intéressant parce que ça étend le marché de Microsoft en proposant le cloud comme une plateforme à part entière. D'ailleurs, ils l'ont beaucoup montré dans leur conférence qu'on a regardée là, il y a quelques jours de ça, et dont on parlera dans le rendez-vous jeu en grand détail. Mais c'est marrant de voir que, enfin, ça arrive, cette histoire d'app qui permet de faire du streaming de jeux vidéo, de la même manière que Netflix peut faire du streaming de séries ou de films. Et c'est Microsoft et Samsung qui s'y collent. C'est très bien dans la théorie. Je me demande si concrètement les gens vont l'utiliser, mais a priori, pourquoi pas?
C'est quand même hyper incitatif. En plus, Samsung, alors là où Samsung est très très fort, parce que autant Xbox, l'année dernière, ils avaient déjà évoqué ça juste avant, pareil, leur conférence de juin. Ils aiment bien faire ça, ils font beaucoup d'annonces en amont, qui ne sont pas des jeux. Ils nous avaient déjà teasé cette arrivée dans des télés, et tu sais aussi leur espèce de dongle pour que tu connecterais en HDMI à n'importe quel écran, pour le coup, pour pouvoir jouer sans console.
Dont ils ont parlé et qu'ils ont repoussé là,
Et en gros, dématérialiser la console pour jouer en cloud, pour jouer sur une autre télé, c'est quand même un truc qui trotte dans leur tête depuis très très longtemps, qui là entre enfin en application. Alors, le Xbox Cloud Gaming, ça tourne plutôt pas mal, c'est pas la techno la plus fiable du marché pour le moment, mais ça tourne sur les smartphones et les tablettes. Là, ils arrivent chez Samsung, donc c'est quand même le plus gros constructeur de télé au monde. Donc, alors certes, c'est sur les derniers modèles, hein, donc c'est les plus récents quand même. Ce ne sera pas sur toutes les télés, mais c'est quand même, je trouve que pour montrer ce qu'ils sont capables de faire, c'est énorme. Et puis Samsung, inversement, eux, sur leur télé, ils lancent leur Samsung Gaming Hub, là, je ne sais plus dans quel sens c'est, où il y a quand même Stadia, GeForce Now, Xbox maintenant, plus autre chose. Moi, je trouve que l'appel du pied aux joueurs qui n'ont pas les dernières Xbox Series, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, je trouve que là-dessus, c'est intéressant. Ça ne va pas convertir des non-joueurs. Là-dessus, je te rejoins. Je ne suis pas sûr que ça convertisse des non-joueurs ou alors les plus curieux. Mais ceux qui n'arrivent pas à mettre la main sur les consoles de dernière génération, c'est quand même c'est une alternative assez intéressante.
Ouais. Il y a une question, effectivement, de disponibilité, ne serait-ce que ça, parce que le système de cloud gaming de Microsoft a été mis à jour sur la dernière version des consoles, les séries X. Donc, la qualité de l'image est vraiment bonne.
12 euros par mois, max, quand même. C'est pas extrêmement cher pour avoir accès à tout le catalogue du Game Pass, quand même.
C'est ça.
Je trouve.
Ouais, mais c'est amusant parce que ça repose la question du début de la fin des consoles, quoi.
Ouais.
Ouais, qui, à mon avis, on n'y est pas du tout. Hein.
Connexion, parce qu'il faut toujours une bonne connexion, et ça, déjà, ça les pénalise, ça limite, pas mal à beaucoup d'endroits.
Bien sûr. Non, et puis, je pense que c'est le genre de choses, mine de rien, encore pour, je dirais, au minimum 15 ans, on aimera bien avoir notre machine chez nous quand même pour être sûr que ça tourne bien, qu'il n'y a pas de petites... Tu vois, les gamers un petit peu assidus, je les vois mal abandonner leur console de sitôt. À terme, peut-être. Hein, on avait plein de joueurs PC qui disaient « Moi, je veux acheter mon CD chez moi. Aujourd'hui, plus personne n'a un CD. Tout est dématérialisé. » Mais bon, moi, je ne me vois pas abandonner ma console de sitôt. Mais je suis peut-être old school. Entre parenthèses, Microsoft a fait du changement dans la division HoloLens en renvoyant ou en se séparant d'Alex Kipman, qui a été accusé de harcèlement, qui était un type qui était assez visible, hein, qui présentait justement HoloLens et qui était en charge de HoloLens depuis son lancement. Mais HoloLens existe toujours, et avec les rumeurs qu'on a de l'arrivée du casque de réalité virtuelle / augmentée d'Apple au premier trimestre 2023, selon Minchi Kuo. Peut-être qu'il reviendra sur le devant de la scène, mais en plus de ça, Microsoft a publié une sorte de white paper ou de directive assez intéressante sur la syndicalisation aux États-Unis et la manière dont ils traitent leurs employés, qui est à des années-lumière de ce qui se passe dans la tech en général et qui semble être... Moi, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte à quel point il est difficile d'attirer des ingénieurs et des talents en ce moment, surtout après le « great resignation où les gens se disent « bah, j'ai travaillé de chez moi pendant longtemps, maintenant je continue à travailler de chez moi », ce que je peux comprendre. Et du coup, ils se sentent obligés de se dire bah, « pour attirer les gens, il va falloir que idées révolutionnaires, qu'on les traite mieux ». Peut-être, potentiellement.
Je pense où ils se disent que c'est un sujet du moment et que ça fait bien aussi de l'avancer pour attirer des jeunes, notamment.
Oui, bien sûr, mais je pense que ça va leur coûter.
Je me fais l'avocat du diable. Hein, mais
Non, mais je pense qu'il y a de ça, il y a un peu de com' aussi, mais ça va aussi leur coûter de l'argent. Concrètement, c'est à ça que ça revient au final. Ils ont ouvert, par exemple, les négociations avec ils ont déclaré qu'ils allaient ouvrir les négociations avec les syndicats, qui est un problème énorme chez Activision Blizzard, une société qu'ils ont acquis, qui est une énorme boîte de jeux vidéo, qu'ils sont en cours d'acquisition. Et ils ont dit, on va parler avec les syndicats, on va négocier. Donc, je pense que les syndicats vont imposer des conditions qui vont coûter plus cher à Microsoft. Donc, je pense qu'il y a une conséquence. Oui, c'est un petit peu de communication, mais je pense qu'il va y avoir des conséquences claires sur visibles sur leur bénéfices, même si ça va représenter une virgule, quoi. Mais les autres de la tech ne sont pas prêts à le faire, par exemple. Les autres, aux États-Unis, évidemment, ont une peur absolument panique des syndicats et tous se recroquevillent sur eux-mêmes dès qu'on commence à parler de syndicalisation.
Là, je suis d'accord avec toi. C'est que vu de France, c'est vrai que les syndicats, c'est quand même des choses qui sont complètement ancrées dans les esprits et les mœurs. Aux États-Unis, pas du tout. Chez Amazon, il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes partout. Et je pense que là, je rigole sur le côté communication de Microsoft, même si je pense que j'ai en partie raison sur le fait que, comme tu disais, ils ont besoin d'attirer des jeunes talents et que quand tu parles des sujets dans l'air du temps, ça aide beaucoup plus. Mais que derrière, il y a un vrai besoin et qu'il n'y a pas une autre société, pour moi, aux États-Unis, qui peut faire ça. Enfin, un gros, à part Microsoft. Chez Apple, on sait qu'ils traînent un peu des pieds aussi. Et puis, ils ont une autre culture d'entreprise qui fait que je pense que ce qu'ils diffuse dans les esprits fait que pour qu'il y ait des syndicats chez Apple, c'est pas gagné. Mais Microsoft, ils sont vraiment... Non, mais tu vois, ils ont une théorie de l'entreprise. C'est vraiment une des dernières sociétés où ils sont vraiment esprit d'entreprise. Enfin, quand tu discutes avec les gens de chez Apple, tu sens pas qu'ils sont aptes aussi facilement à s'unir en syndicat qu'ailleurs. Hein. Ils ont pas, ça veut pas dire qu'ils ont pas des revendications. C'est qu'ils ont une façon de faire, je pense, et de réflexion qui n'est pas du tout la même qu'ailleurs. Et en effet, Microsoft, Xbox et toutes les entreprises qui rachètent et qui agrègent, ils sont plus ouverts à aller écouter localement, comme on peut dire, ou par entreprise, ce qui se passe et ce qui gronde. Mm-hmm. En effet, le rachat d'Activision Blizzard met un coup de pied dans la fourmilière de cette réflexion sur les syndicats, parce que là-bas, la grogne, elle est réelle et ça peut derrière se diffuser à toute l'entreprise. Donc, je pense qu'ils ont aussi intérêt à quadriller ça très très vite et à poser eux leur vision, vision qui est positive pour les employés là-bas, de dire ok, on vous laissera faire et on vous écoute. Parce que si ça se diffuse et que c'est une gronde générale, c'est quand même autrement plus difficile à cadrer dans des boîtes de cette ampleur-là.
Puis en plus, ça fait bien vis-à-vis des autorités qui étudient
les
problèmes
qui étudient
de, oui, de monopole et antitrust, ce genre de choses. Je voulais conclure sur les NFT, mais je suis même pas sûr que j'ai envie avec.
Cherchez pas la force.
Ouais, non, mais c'est vraiment.
Je passe mon tour sur les NFT.
En fait, je vais juste le mentionner rapidement. Il y a un jeu qui s'appelle Axie Infinity, qui est un petit peu le porte-étendard du NFT dans le jeu vidéo, et des jeux basés sur les NFT qui sont censés vous amener la possibilité de gagner votre argent au jeu vidéo. Vous savez, cette idée du play to earn. Il y a un article absolument excellent de Bloomberg sur Axie Infinity et la manière dont fonctionnent les choses, et surtout la manière dont ils ont tout à coup transformé leur communication de play to earn à play and earn. Parce que, évidemment, avec la chute des tarifs et de l'industrie du crypto en général, c'est play to earn. Ce qui valait $50 il y a deux semaines, maintenant n'en vaut plus que 10 ou 20. Donc, comme partout ailleurs, les investissements qu'ils ont fait, que les joueurs ont fait, se retrouvent ne plus valoir du tout l'argent qu'ils ont investi. Et ce que je note également, qui est vraiment intéressant dans cet article, c'est la manière dont les gens qui jouent à Axie Infinity le décrivent et disent « Oui, alors c'est sympa, c'est un petit jeu comme ça, marrant, mais quand je joue pour me détendre, moi je vais jouer à autre chose, c'est pas Axie Infinity que je vais jouer. » Et à quel point, du coup, ils n'y jouent que pour cet aspect play to earn, et à quel point ça solidifie ma croyance que les gens qui développent ce genre de jeu ne connaissent pas et ne comprennent pas les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours un extrait d'un commentaire sur LinkedIn, je crois, qui avait été posté par un investisseur dans le monde des cryptos et du jeu vidéo, et des cryptos, des NFT dans le jeu vidéo, et même plus des jeux play to earn qui sont développés sur les blockchains et à base de NFT, plutôt que des développeurs de jeux qui sont en train d'intégrer des NFT. Mais donc, cette personne décrivait une journée d'un joueur qui fait du play to earn en décrivons la chose comme un monde idéal où les joueurs seraient super heureux. Et ce qu'ils décrivaient, c'était un cauchemar inimaginable pour n'importe quel joueur. C'est-à-dire que la base de ces NFT et des tokens et des monnaies était qu'on pouvait prendre des ressources acquises dans un jeu pour les utiliser dans un autre. Et donc, ils décrivaient le parcours d'un joueur qui devait aller dans différents jeux pour acquérir certaines ressources, y jouer pendant X temps, et puis utiliser ces ressources dans les autres jeux pour essayer d'obtenir d'autres trucs. Et du coup, ce que ça voulait dire, c'est que s'il y a un jeu auquel tu voulais jouer, pour obtenir quelque chose, il fallait aller dans un autre jeu et transformer les ressources dans un autre jeu pour enfin peut-être réussir à aller jouer au jeu auquel tu voulais jouer. Et dans les pourcentages, il y avait des trucs qui n'avaient aucun sens, qui ne fonctionnaient pas. Et vraiment, ça me convainc que les gens qui poussent ces idées de jeu basées sur les NFT, de play to earn, ne comprennent pas le jeu vidéo du tout. Bref.
Je suis mille fois d'accord avec toi. Ils ont oublié la notion principale qui était de jouer, en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. Exactement.
La base.
La base de leur réflexion n'était pas le jeu.
Non, c'est ça.
Disait l'autre, quand ton seul outil est un marteau, tout se met à ressembler à un clou, tu vois.
C'est exactement ça. Ouais.
C'est beau.
Ah, bon. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon des actualités de la semaine dernière. Merci à tous les deux d'avoir été présents avec moi pour m'aider à débroussailler tout ça. Si on veut vous retrouver ailleurs que dans le rendez-vous tech, où peut-on aller, Cédric ? Dis-nous tout.
@Cédric hein, sur Twitter, et puis les doigts dans la prise. À chaque fois qu'on enregistre ensemble, je me dis flûte, faut que je refasse un épisode des doigts dans la prise. Et là, je suis en retard. À chaque fois, en fait, tu es mon petit lapin blanc, tu es ma fée clochette. tu es en retard. Bon, voilà. Donc, il y a un nouvel épisode qui va sortir. Ah, si, on va faire un truc rigolo début juillet. Il se trouve qu'il y a un club de possesseurs de Tesla en France et qui se rassemble. D'ordinaire, c'est pas à ma cam, ce genre de truc, mais là, c'est vraiment rigolo. Et surtout, là, ils vont se rassembler à Clermont-Ferrand sur le circuit d'essai de Michelin. Donc on va enfin pouvoir faire vroom vroom avec nos jolies voitures. Et puis, voir plein de choses, etc. Donc, si vous êtes à Clermont-Ferrand le 2 juillet, moi je dis ça, je dis rien, venez sur le circuit d'essai de Michelin, ce sera rigolo. Mais merci Patrick de m'avoir permis de retrouver Mélinda, parce qu'on a quand même travaillé ensemble pendant des années, donc c'est toujours un plaisir.
Mais oui, toujours. Merci pour l'invitation. Mais écoute-moi, vous pouvez me lire sur... j'aime beaucoup discuter avec vous. En plus, j'apprends plein de choses. Et toi, sur les Tesla. Alors, je n'irai pas jusqu'à Clermont-Ferrand, hein, Cédric, tu m'en voudras
non,
pas.
De toute façon, il faut avoir sa Tesla. Hein. C'est très fort.
Ouais, non, je ne suis pas admise au club encore.
Ça, pour un permis. Enfin,
bon. Ouais, c'est des trucs de folie, quoi. Mais écoute, moi, vous pouvez venir nous lire sur Frandroid tout le temps pour parler un peu de tout. Et puis le vendredi, sinon, dans le journal du hardware, sur le stream, la chaîne Twitch de Webedia. Et puis évidemment, pour tous ceux qui veulent venir discuter tech et autres, sur Twitter, Melinda_DS. Voilà, vous savez tout.
Magnifique, les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, comme le lien vers le Patreon du rendez-vous tech, patreon.com/rdvtech, hein, vous le connaissez, et toutes mes activités en ligne. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, où on s'amuse bien, vous pouvez rejoindre le Twitch, où on stream généralement chaque mardi midi le rendez-vous tech, et chaque jeudi midi le rendez-vous jeu. Alors là, c'était un peu compliqué, parce que je suis dans un nouveau setup, pas à la maison, tout ça, mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, quoi qu'il arrive, on sera de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Jeu et on vous attend déjà là-bas, dans le futur. Comment tu disais, Cédric ? C'est repousser la gestion à l'avenir ?
On a repoussé à plus tard la gestion de l'avenir.
C'est ça, très bien. Et nous, on gérera l'avenir dans une semaine dans le Rendez-vous Tech. Ciao à tous.